Donc on va partir passer à nos deux séminaires d'aujourd'hui, et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir ici Jean-Philippe Bantu et Charles Grenier. Donc Jean-Philippe Bantu est un expérimentateur des atomes froids qui a fait sa thèse à l'Institut d'optique de 2006 à 2009, c'est ça, avec Philippe Bouillet et Alain Aspect. Et depuis 2009, il est dans l'équipe de Tillmann Esslinger à l'ETH de Zurich, où il travaille sur l'expérience de lithium-6. Et en particulier, il a été pionnier dans ces histoires de transport dans ces systèmes fermioniques d'atomes froids. Et au cours de ces 2-3 dernières années, on a eu une collaboration extrêmement agréable, je dois dire, tous ensemble, avec également du côté théorique Corinne Acolat et puis toute l'équipe de l'ETH, qui donc a abouti à la prédiction et à l'observation des premiers effets thermoélectriques, alors entre guillemets, de nouveau thermoélectriques, entre guillemets, dans ces systèmes d'atomes froids. Donc, je remercie à la fois Charles et à la fois Jean-Philippe et Charles d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Et Jean-Philippe va nous présenter un peu ce nouveau domaine émergent du transport dans les gaz d'atomes froids dans une perspective assez large, je pense, en liaison avec ses expériences.
Merci. Bien, donc merci Antoine pour l'invitation. C'est un immense honneur pour moi d'être ici. Je vais vous présenter des expériences qu'on a réalisées ces deux dernières années, des expériences de transport dans les gaz de fermions ultra-froids, donc dans l'équipe de Tillmann Esslinger à l'École Polytechnique de Zurich. Ce que vous voyez ici à l'arrière-plan, c'est le cœur de notre dispositif expérimental. Donc, c'est une cellule de verre dans laquelle on a un vide très poussé. Et puis c'est dans cette cellule qu'on prépare les atomes, qu'on les refroidit à très basse température, et puis qu'on les manipule et qu'on les observe, donc le tout avec des méthodes optiques. Donc l'idée de nos expériences, qui est une idée qui est commune à un grand nombre d'expériences dans le domaine des atomes froids, c'est au fond de modéliser en utilisant des atomes fermioniques le comportement d'électrons dans des structures solides. Donc, on s'inspire de problèmes de physique de la matière condensée et on essaie de tirer parti du fait que les expériences de physique atomique ont lieu à des échelles de longueur, des échelles d'énergie qui sont extrêmement différentes des expériences de physique de la matière condensée, et donc on peut avoir différents paramètres de contrôle et par exemple accéder à des régimes de paramètres qui sont difficilement accessibles pour les expériences qu'on réalise avec des électrons. En particulier, les différences d'échelle les plus importantes, peut-être la plus importante pour nos expériences, sont des différences de densité. Donc les systèmes d'atomes froids sont des systèmes très très dilués. On a des densités de particules de l'ordre de 10 puissance 12 atomes par centimètre cube, ce qui fait une dizaine d'ordres de grandeur en dessous d'un métal typique. Et donc, ces densités extrêmement faibles ont une conséquence qui est absolument cruciale, c'est le fait que la distance entre particules est de l'ordre de 1 micron à peu près, ce qui correspond à la longueur d'onde de la lumière visible. Autrement dit, on peut utiliser des méthodes optiques, en particulier des lasers, pour manipuler des atomes et les observer à des échelles de longueur qui sont essentiellement la longueur d'onde de Fermi. Donc, par exemple, on peut créer des réseaux optiques qui modélisent le comportement d'électrons dans le régime de Hubbard. On peut créer un désordre microscopique en utilisant simplement une figure de Speckel. Donc, je parlerai un peu plus en détail de ça plus tard. Alors, évidemment, comme on a ces très basses densités, on a également des énergies de Fermi qui sont extrêmement basses. Donc, associé au fait que les atomes sont des objets qui sont plutôt massifs, au moins à l'échelle des électrons, on a des températures de Fermi qui sont de l'ordre de 1 microkelvin. Et donc, ça nécessite, pour réaliser des études sur ces gaz, de les refroidir par laser et par évaporation, qui est en particulier refroidissement par évaporation, qui est la technique qui permet de réaliser des nuages qui sont significativement plus froids que 1 microkelvin. Donc, en combinant ces deux techniques de refroidissement laser et de refroidissement par évaporation, on peut obtenir des températures qui sont de l'ordre de 10% de la température de Fermi, parfois un peu moins pour certains cas particuliers. Et c'est essentiellement le point où le refroidissement par évaporation arrête de fonctionner. Et d'ailleurs, Donc on aimerait bien disposer de nuages qui soient beaucoup plus froids que ces températures, mais pour ça, on a besoin essentiellement de nouvelles idées, et ça, c'est un domaine qui est assez actif dans les atomes froids. Vous avez entendu un exemple de proposition dans le cours d'Antoine juste avant. Alors, malgré le fait qu'on ait des températures qui soient relativement élevées, du moins à l'échelle de ce qu'on rencontre dans des métaux, on peut néanmoins fabriquer des nuages d'atomes froids qui sont en interaction forte et qui sont fortement corrélés. Et ceci vient du fait que les interactions entre atomes froids sont contrôlables. Donc les atomes ne sont pas chargés, contrairement aux électrons. Ils interagissent par le potentiel de van der Waals. Et dans les régimes de densité et de température auxquels on travaille, le potentiel de van der Waals est très bien décrit par simplement un terme de contact qui dépend d'un seul paramètre, qui est la longueur de diffusion pour la collision entre deux atomes. Si on considère le problème à deux atomes, on a un spectre qui contient des étaliers, et ces étaliers ont différents moments magnétiques, et on peut, en plongeant les atomes dans un champ magnétique, placer l'un de ces étaliers très proche du continuum, de sorte que lorsque deux atomes vont entrer en collision, s'il existe un petit terme qui ne conserve pas le moment magnétique total, par exemple une interaction spin-spin, ou une interaction d'échange, eh bien, on peut avoir une amplification résonante de la diffusion qui se traduit par une divergence de la longueur de diffusion ici en fonction du champ magnétique. Donc ça, c'est l'exemple d'une de ces résonances de Feshbach. Ici, la longueur de diffusion pour deux atomes de lithium en fonction du champ magnétique avec la résonance de Feshbach ici qui est à 832 Gauss. Et donc, on a la possibilité, en changeant le champ magnétique dans lequel on réalise des expériences, de travailler ou bien, par exemple, au voisinage de ce point pour lequel on a un gaz qui est essentiellement un gaz parfait. Mais on peut également travailler au voisinage de ce point ici, où les interactions sont extrêmement fortes. Et d'ailleurs, ces interactions sont tellement fortes que, même à des températures supérieures à 10% de la température de Fermi, on a un système qui est superfluide. Et donc, au cours de ces dix dernières années, il y a eu un grand nombre d'études. Celle-ci est peut-être la plus emblématique, donc l'expérience de Wolfgang Ketterle en 2005. Donc un gaz refroidi dans ce régime ici d'interaction forte, qui est mis en rotation, et on observe des réseaux de vortex, qui est peut-être la manifestation la plus spectaculaire de la superfluidité. Alors, on peut contrôler les interactions entre particules. On peut également contrôler la forme du potentiel dans lequel les atomes vont évoluer. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très commun en physique de la matière condensée. On peut utiliser tout un tas de techniques de croissance de cristaux, de chimie des solides pour modifier les propriétés des matériaux. Et on peut également utiliser des techniques de lithographie pour fabriquer des composants. Vous avez ici un exemple que j'ai pris dans l'équipe de Klaus Enslin à Zurich. Alors, pour les atomes, on a un degré de contrôle qui est comparable. On peut essentiellement envoyer des lasers sur les atomes pour réaliser des potentiels. Donc, lorsque les lasers qu'on envoie sur les atomes sont éloignés des résonances atomiques, l'effet du laser, c'est simplement de déplacer les niveaux d'énergie de l'atome de sorte que l'atome voit un potentiel qui est proportionnel à l'intensité locale de l'onde lumineuse. Donc, si on veut réaliser une certaine distribution de potentiel sur les atomes, on la réalise sous forme de distribution d'intensité lumineuse pour un faisceau qu'on envoie ensuite sur les atomes, par exemple en utilisant un microscope. Je parlerai un peu en détail de ces techniques qu'on utilise pour réaliser les expériences de transport dont Antoine vous a parlé juste avant. Alors, le dernier point que je voudrais mentionner dans cette introduction, c'est la manière qu'on a de sonder les propriétés des systèmes atomiques. Et donc, ce qu'on utilise essentiellement sont des méthodes d'imagerie, par exemple l'imagerie par absorption, pour lequel on obtient, en envoyant un faisceau résonant sur les atomes, on obtient une image de la distribution de densité du nuage. Et plus généralement, on a à notre disposition un grand nombre de techniques de type spectroscopie par fluorescence. Donc, l'absorption est un cas particulier de ça, spectroscopie radiofréquence, etc. Et pour ce qui est des électrons dans les solides, on peut avoir accès à un très grand nombre de fonctions de réponse. Peut-être la plus simple et la plus triviale, entre guillemets, ce serait la réponse en courant quand on applique une tension. Donc ça donne accès à la résistance électrique du système. Et puis, il y a un très grand nombre de raffinements possibles de ces techniques qui donnent accès à des informations résolues spatialement, des informations résolues en énergie, en temps, etc. Alors, l'idée des expériences que je vais vous présenter, au fond, c'est, en se concentrant sur ces deux derniers aspects, c'est d'importer au maximum les techniques qui sont utilisées en physique des solides dans le domaine des atomes froids, en particulier la possibilité de mesurer des résistances, des conductances et plus généralement des coefficients de transport. Et donc on a suivi, pour ce faire, une démarche qui est tout à fait, encore une fois, commune pour la physique des solides. On part d'un système d'atomes froids qui est la contrepartie au fond du gaz d'électrons, par exemple en physique mésoscopique ou en physique de la matière condensée. On définit ensuite, en utilisant des faisceaux laser, une certaine géométrie. Et puis, enfin, donc, de la même manière que l'on a dans un système solide des terminaux qui sont connectés à des appareils de mesure ou à des sources de tension ou de courant qui donnent accès ensuite aux coefficients de transport, on a cherché à réaliser quelque chose qui ressemble également à des terminaux pour pouvoir mesurer des conductances. Bien sûr, ici, comme on a des systèmes d'atomes froids, les systèmes, ce sont des systèmes qui sont complètement isolés par nature. Vous avez vu le système à vide un peu que je vous ai montré sur le transparent de présentation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est, au fond, de fabriquer les sources de tension et les sources de courant, et d'une certaine façon, de fabriquer les appareils de mesure directement à partir du nuage atomique lui-même. Alors, on n'est pas du tout les seuls à essayer de mesurer les coefficients de transport dans les nuages d'atomes froids. Il y a un certain nombre d'expériences, notamment des expériences pionnières du groupe de Palaiseau. Et donc l'idée, ici, ça va être de développer un dispositif expérimental, donc c'est ce que je vais vous présenter dans la première partie, qui est la contrepartie d'atomes froids, disons, du système de Landauer à deux terminaux. Et puis je vais présenter assez rapidement des mesures qu'on a réalisées qui montrent l'effet assez spectaculaire des interactions, d'interactions fortes, sur les propriétés de transport, les propriétés de transport du gaz. Je parlerai un tout petit peu de superfluide en présence de désordre, mais de façon assez superficielle. Et ensuite, je parlerai par contre en détail des dernières mesures qu'on a réalisées, donc d'effets thermoélectriques, qui sont des mesures qu'on a réalisées en collaboration avec l'équipe d'Antoine Georges, et d'ailleurs en partie à son initiative. Et je parlerai notamment de l'effet, là encore, du désordre. Au fond, on a un effet assez spectaculaire quand on passe d'un système balistique à un système diffusif. Le pouvoir thermoélectrique est fortement modifié. Puis enfin, je présenterai des résultats les plus récents qui sont encore préliminaires pour une bonne partie, qui consistent à utiliser maintenant des techniques de lithographie optique qui sont directement, au fond, inspirées par les méthodes de fabrication de composants qu'on utilise en physique mésoscopique. Et je parlerai notamment de nos premières mesures sur des fils quantiques. Alors, le dispositif expérimental, donc, on démarre les expériences avec un gaz de lithium qui se présente sous cette forme. Donc, on a environ 100 000 atomes de lithium qui sont refroidis à une température de l'ordre de 20% de la température de Fermi. Donc, vous avez ici une image par absorption, donc c'est la distribution de densité du nuage. La température de Fermi dans ce système est de l'ordre de 930 nanokelvin. Alors, le gaz a cette forme un peu allongée, donc ça reflète la forme du potentiel de piégeage qui est utilisé pour le préparer. Donc on a un confinement qui est fort dans ces deux directions, et puis un confinement qui est plus faible dans cette direction, ce qui donne au nuage une forme un peu de cigare allongée, ce qu'on voit sur ce petit dessin. Et ensuite, à partir de ce nuage, on envoie un faisceau laser qui a cette forme ici de deux nappes de lumière. Et donc ce faisceau laser qui se propage dans cette direction, et il va exclure les atomes de ces deux régions ici, et réaliser un fort confinement dans la direction transverse. Et ce faisceau est focalisé sur le centre du nuage, de sorte que les deux parties du nuage sur les côtés ne sont pas affectées par le faisceau. Donc on obtient, ici au centre, une région dans laquelle les fréquences d'oscillation ou l'écart entre les niveaux d'énergie vibrationnelle dans cette direction ici est relativement grand. Donc ici on a une dizaine de kilohertz typiquement, ce qui correspond à la moitié de l'énergie de Fermi. Donc on a ici quelques niveaux d'énergie vibrationnelle qui sont peuplés dans cette direction. Et on a ainsi créé un canal ici étroit qui connecte les deux parties du nuage. Et ces deux parties du nuage, elles ne sont pas affectées par le laser. Alors ce canal, il est fortement multimode, puisque, donc, vous voyez sur ce dessin, le laser se propageant dans cette direction, on a un système qui est quasi bidimensionnel. Hein. Et puis, par contre, c'est un canal qui est complètement balistique. Les atomes froids sont des systèmes qui sont en quelque sorte balistiques par nature. On n'a pas d'impureté, pas d'atomes d'impureté, on n'a pas de structure cristalline, on n'a pas de dislocation, rien du tout. On n'a évidemment pas de phonons, hein, pour la même raison. Et donc ce système balistique, il réalise une configuration à deux terminaux, un réservoir gauche, un réservoir à droite. Et la seule chose qui nous reste à faire maintenant pour mesurer la conductance ici de ce système, c'est d'introduire un biais de potentiel chimique entre, entre les deux réservoirs. Et ce biais de potentiel chimique va créer un courant dans le canal. Alors on réalise ça en préparant l'un des réservoirs avec un peu plus d'atomes que l'autre. Et comme on a un peu plus d'atomes, eh bien on a un potentiel chimique légèrement plus élevé. Et donc dans le régime de réponse linéaire, le courant est donné par la loi d'Ohm, simplement proportionnel aux différences de potentiel chimique. Ensuite, la différence de potentiel chimique est donnée par la différence de nombre d'atomes, donc ça c'est ce dont Antoine vous a parlé pendant le cours. Ici, le coefficient kappa, c'est la compressibilité. Et puis, avec l'équation de continuité, on obtient une équation d'évolution qui est extrêmement simple pour l'évolution de la différence de nombre d'atomes en fonction du temps. Et cette différence de nombre d'atomes, c'est l'observable expérimental. Les images par absorption qu'on prend du nuage nous donnent directement le nombre d'atomes dans chacun des réservoirs, et c'est cette évolution qu'on va suivre en fonction du temps. Vous avez ici un exemple. Vous avez donc la différence de nombre d'atomes normalisée par rapport au nombre d'atomes total. Donc, autrement dit, ici, on commence avec un peu plus de 10% de différence de nombre d'atomes entre les deux parties du réservoir. Et puis, on observe ici, en fonction du temps, la décroissance de cette différence de nombre d'atomes qui suit une loi exponentielle. Et on peut modéliser ce système de façon extrêmement simple par la décharge d'un condensateur dans un conducteur ohmique. Et ici, c'est la compressibilité du réservoir qui joue le rôle de la capacité. Et ce qu'on obtient expérimentalement par l'ajustement exponentiel ici, c'est la constante de temps, qui est ici une demi-seconde, hein, dans cet exemple. Alors, il est important que cette constante de temps soit très longue, en particulier parce qu'on veut s'assurer qu'à chaque point ici dans le temps, les réservoirs sont à l'équilibre interne, de sorte que le phénomène qu'on observe, c'est bien un effet qui est uniquement de l'écoulement dû à la différence de potentiel chimique et pas quelque chose qui serait la dynamique interne, par exemple, des réservoirs. Donc, pour ces constantes de temps ici, on est typiquement 10 fois plus grand que les fréquences propres des réservoirs. Et pour le cas extrêmement simple d'un conducteur balistique avec des gaz parfaits pour les réservoirs, on peut calculer, et ça Charles vous en parlera en détail dans son séminaire, on peut calculer directement la constante de temps sans aucun paramètre ajustable. Hein, il suffit juste de connaître la géométrie, le nombre d'atomes et les températures. Et on obtient une constante de temps qui est comparable à ce qu'on observe expérimentalement. Alors, pour ce système balistique, on peut aller un petit peu plus loin et puis se demander, au fond, qui était une question qu'on s'était posée quand on avait fait ces expériences, c'est d'où vient le fait que, quand on a un système balistique comme ça, où est-ce que le potentiel chimique diminue ? Au fond, où est-ce qu'on a la chute de tension dans un conducteur balistique lorsqu'on observe une résistance ? Et donc pour ce faire, on prend exactement le même système, simplement maintenant, on utilise un microscope qui permet d'observer les propriétés du nuage ici au voisinage de la constriction. Donc quand on fait ça, on obtient des images qui mesurent la densité totale d'atomes et on peut mesurer la densité avec et sans courant. Et donc la variation de densité en présence de courant, c'est simplement, simplement proportionnel à la tension, en quelque sorte la tension locale. Donc vous avez ici la différence de densité le long du canal, donc c'est un zoom sur le canal, en fonction de la position. Vous avez ici ce qui correspond à l'un des réservoirs. Donc sur cette échelle, le réservoir serait très très grand ici. Donc c'est le réservoir qui a un haut potentiel chimique, donc il a une densité plus grande. Le réservoir ici, qui serait très allongé dans cette direction, a une densité plus faible, donc un potentiel chimique plus faible. Et puis ici, dans le canal, en particulier au centre du canal, on n'a pas de différence. C'est-à-dire que qu'il y ait du courant ou pas de courant dans le canal, on n'est pas capable de voir la différence. C'est ce qu'on attend exactement pour un système balistique. Et la chute de potentiel chimique et la chute, en réalité, de densité atomique, elle se produit aux endroits où la densité d'état varie le plus rapidement, c'est-à-dire aux connexions entre les réservoirs et puis le canal lui-même. Et ça, c'est une prédiction très simple de la théorie de Landauer qu'on arrive à vérifier sur ces expériences. Donc, voilà un premier exemple, donc conducteur balistique, extrêmement simple. Je vais maintenant vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on change la force des interactions entre les atomes. Donc, les expériences dont je vous ai parlé étaient réalisées au voisinage de ce point. Maintenant, et ça c'est la force des atomes froids, on peut réaliser dans exactement la même géométrie un nuage qui est en interaction très forte, et en particulier un nuage dont on s'attend à ce qu'il soit superfluide à suffisamment basse température. Évidemment, l'idée ici, c'est si notre mesure de résistance a quelque chose à voir avec la résistance du système, on devrait quand même être sensible au fait que le système passe d'un état normal à un état superfluide. Et donc ça, c'est l'idée de ces manips. Donc exactement le même dispositif expérimental, simplement maintenant, on a un contrôle sur le champ magnétique qui permet de changer les interactions. Alors, je raccourcis un peu l'histoire, mais la mesure de résistance ici, donc, c'est la résistance mesurée, donc c'est toujours cette constante de temps. Hein. Chaque fois que je parle de mesure de résistance, c'est cette constante de temps qui est mesurée, en fonction ici de la pression, donc la pression ou le potentiel thermodynamique oméga, normalisé par le potentiel thermodynamique qu'aurait un gaz parfait à la même densité. Donc c'est quelque chose qui mesure le degré de dégénérescence du système. Donc ici, les hautes valeurs de ce paramètre sont des régions à basse densité, haute température, et puis inversement ici, haute densité, basse température. Et vous voyez, on a une variation ici de plusieurs ordres de grandeur de la résistance. Et en particulier, d'ailleurs, vous voyez, pour les basses valeurs de ce paramètre ici, en fait, on a des points expérimentaux pour lesquels, qui ne sont pas sur ce graphe, mais pour lesquels on n'est simplement pas capable d'attribuer une résistance. En fait, le système, les deux réservoirs se comportent exactement comme s'ils étaient court-circuités. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez satisfaisant, puisque c'est ce à quoi on s'attend pour un superfluide.
Juste une question, donc si je reviens à l'ordre de grandeur de la constante de temps.
Oui.
Donc tout à l'heure, tu avais une constante de temps d'une demi-seconde.
Oui.
Et donc là, si je convertis ça en constante de temps.
Alors, ça, c'est la résistance ici, c'est la constante de temps qui est normalisée par rapport aux fréquences d'oscillation dans la direction longue du piège. Autrement dit, en fait, quand la résistance devient proche de 1, la constante de temps pour le courant devient proche de la constante de temps interne des réservoirs, et donc on observe quelque chose qui est un mouvement commun de tous les atomes dans le réservoir, qui ressemble en fait à des oscillations dipolaires. Et d'ailleurs, le courant qu'on observe pour ces points ici à très basse valeur de ce paramètre est le même que celui qu'on observe dans des oscillations dipolaires non amorties, ce qui correspond à la situation où les deux réservoirs sont court-circuités.
Sur ce graphe, la demi-seconde,
elle est ici.
Elle est là.
Donc la demi-seconde ici de constante de temps, ça correspond à la résistance de contact donc qui est prédite par la formule de Landauer pour le gaz en interaction faible. Et donc on a ici une décroissance relativement spectaculaire, plus d'un ordre de grandeur de différence par rapport au cas purement balistique. Alors il y a énormément de questions, là je vous donne une interprétation qualitative, il y a énormément de questions hein, sur ces expériences, notamment comment se fait-il qu'on observe les valeurs de résistance qu'on observe ici pour ces gaz qui sont a priori dans un régime superfluide. Donc c'est des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, au moins pas de réponse quantitative, et on travaille sur ce sujet en collaboration avec des théoriciens.
Alors, du mode dipolaire, excuse-moi d'interrompre.
Non, j'ai
suivi
bien.
Vous voyez l'amortissement de ce mode dipolaire, justement ?
Alors, ce qu'on voit, alors je crois que je peux augmenter un peu la lumière avec ce truc. Sinon, non, c'est pire. Ok, bon. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on regarde en fonction du temps, la différence de nombre d'atomes, ce qu'on voit pour les plus basses valeurs de ce paramètre, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a des oscillations en fait dipolaires qui sont très amorties, et ça c'est pas étonnant parce que on a en présence du canal le piège est très anharmonique, hein, c'est quelque chose qui est donc on s'attend pas à avoir des oscillations qui soient extrêmement bonnes. Par contre, quand on estime le courant ici simplement en prenant la dérivée sur les premiers points, on a la même valeur que ce qu'on obtiendrait pour des oscillations non amorties, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, oui, alors effectivement, alors il y a un problème d'échelle de longueur. Donc le canal fait à peu près 30 microns de longueur, et la longueur de cohérence du superfluide fermionique est très courte, hein, puisque c'est un superfluide en interaction très fort, donc c'est de l'ordre, c'est en dessous d'un micron, c'est la longueur d'onde de Fermi en gros. Donc en fait, effectivement, si, pour des très très basses valeurs de la différence de potentiel chimique, on devrait normalement avoir un très très petit effet Josephson, mais en fait c'est un effet qui va être à très très basse fréquence, donc tout ça c'est tué par la température. Donc a priori, il faudrait une géométrie avec une barrière extrêmement mince pour qu'on puisse observer l'effet Josephson. Bon, et en plus, modulo le fait qu'on a des systèmes en interaction extrêmement forte. Donc il y a des phénomènes de self-trapping par exemple, pour lesquels, qui vont de toute façon tuer également l'effet Josephson, pour des différences de potentiel qui sont détectables. Donc, je vais maintenant juste passer très brièvement sur des expériences qu'on peut faire en présence de désordre, pour insister simplement sur le fait que, et ça c'est un cas qui est relativement peut-être inhabituel comparé à la physique de la matière condensée, c'est que le désordre dans un système d'atomes froids, ça n'est pas quelque chose contre lequel on doit lutter, mais c'est au contraire un paramètre de contrôle de la manip. Puisque comme les systèmes sont balistiques, on peut ajouter du désordre cette fois de façon contrôlée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un microscope ici, et on envoie une figure de speckle, speckle laser, donc une distribution aléatoire d'intensité lumineuse, uniquement sur le canal, et puis maintenant, la force du désordre, ici, est un paramètre de contrôle de la manip, et on peut regarder, en particulier, la résistance en fonction de la force du désordre. Alors, ces techniques de projection de désordre, elles ont été développées en particulier à l'Institut d'Optique. Il y a beaucoup d'études dans lesquelles, et en particulier des études dans lesquelles, ils observent la localisation d'Anderson. Donc ici, on utilise le désordre pour manipuler les propriétés de transport, en particulier du superfluide, puisqu'on s'intéresse ici à la différence entre un gaz en interaction faible et un gaz en interaction forte. Vous avez ici, là encore, une mesure de résistance, en fonction cette fois de la force du désordre. Les points en bleu sont des mesures qui ont été réalisées sur un gaz en interaction faible. Donc vous avez ici la résistance de contact, hein, simplement pour le cas complètement balistique, et puis la résistance qui augmente quand on augmente la force du désordre. Et pour un gaz en interaction très forte, on commence ici avec une résistance, pour le cas, encore une fois, non désordonnée, qui est trop faible pour qu'on puisse la mesurer. Et ensuite, on observe ce régime d'augmentation assez forte de la résistance ici. Alors, bon, là, on a un système qui est maintenant en interaction forte avec un désordre qui est fort, donc ça devient relativement difficile à interpréter quantitativement. Néanmoins, il y a un point de repère qu'on peut utiliser, c'est le seuil de percolation du désordre. Donc on a des ordres à deux dimensions. Pour les hautes énergies, on a simplement des atomes qui vont se propager et qui vont rencontrer de temps en temps des pics de désordre. Et puis pour les basses énergies, on va au contraire avoir des atomes qui sont piégés dans des minima locaux et puis qui vont communiquer. Donc ces poches isolées d'atomes vont communiquer par des phénomènes, par exemple, d'activation. Donc le seuil de percolation du désordre correspond à ce point ici. Et donc, on a donc une interprétation consistant à dire que, au moins pour ce régime-là, on a plutôt quelque chose qui est un superfluide déconnecté, donc avec une communication qui se fait vraisemblablement par des processus d'activation, et puis, dans le régime de bas désordre ici, au contraire, un superfluide qui est connecté et puis qui peut donc avoir un supercourant. Alors, on peut observer, d'ailleurs, maintenant, in situ, ce qui se passe quand on augmente la force du désordre pour essayer de confirmer un peu ce diagnostic. Vous avez ici des images qui sont prises du canal, donc en fonction de la force des interactions. Donc ça, c'est la distribution de densité totale des atomes en fonction de la force du désordre pour un système, par exemple, ici en interaction forte. Et vous voyez que quand on augmente la force du désordre, on obtient un système qui est de plus en plus fragmenté, désordonné. Et pour ce cas-là, c'est relativement clair qu'on a affaire à un système qui est essentiellement déconnecté. Encore une fois, ici, c'est la densité totale. On aimerait bien avoir le même genre de carte pour la fraction superfluide. Bon, ça nécessite un peu plus de travail. On n'est pas encore capable d'avoir des choses aussi claires. Et on peut faire tout un tas d'analyses sur les propriétés de percolation de ces images. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce n'est pas le sujet. Donc, je vais maintenant passer aux mesures d'effets thermoélectriques qui sont réalisées avec la collaboration d'Antoine Georges, Corinna Collat et Charles Grenier. Et donc je vais m'intéresser en particulier, encore une fois, à l'effet du désordre quand on passe d'un système balistique à un système diffusif. Donc ici, le principe de l'expérience, donc on part exactement de la même configuration, deux réservoirs connectés par un canal, et puis simplement maintenant, au lieu de faire un biais de potentiel chimique, on va chauffer l'un des réservoirs. Alors, pour ce faire, on sépare d'abord les deux réservoirs en utilisant une barrière de potentiel très élevée, et puis ensuite, on va, avec un faisceau laser supplémentaire ici, provoquer un chauffage contrôlé dans ce réservoir ici. Et puis, l'expérience consiste après à supprimer cette barrière, on supprime le laser de chauffage, et puis on regarde ce qui se passe. Alors, quand on a réfléchi à ça au début, quand Antoine nous a proposé l'expérience, on s'est tout de suite dit qu'il va y avoir de toute façon un effet sur le courant de particules entre les deux réservoirs. Il y a une raison qui est relativement simple, c'est ce dont Antoine vous a parlé tout à l'heure, c'est le fait que quand on chauffe un réservoir, ici, on va le chauffer à nombre de particules constants. Et quand on chauffe un gaz à nombre de particules constants, un gaz de Fermi parfait, eh bien, on diminue son potentiel chimique. De sorte que le chauffage, ici, va se traduire par un biais de potentiel chimique négatif. Et ça, évidemment, on s'attend à ce que, au moins, cet effet, ne serait-ce que cet effet, disons, provoque un courant de particules. Ça, c'est l'effet réservoir dont Antoine vous a parlé. Alors, quand on, et ça, c'est l'effet, disons, qui est intuitivement, en tant que physicien des atomes froids, auquel on s'attend peut-être le plus naturellement. Alors, quand on fait la manip, donc on observe d'abord effectivement que bon, la température du nuage chaud, la température du nuage froid, ces deux températures convergent vers une température unique, donc ça, on est plutôt rassuré. Ça veut dire qu'il y a du transport d'énergie du gaz chaud vers le gaz froid, hein, et donc une constante de temps qui est encore une fois de l'ordre d'une demi-seconde. Et puis, quand on regarde la variation de nombre d'atomes, cette fois, on commence avec un nuage qui est à l'équilibre, donc même nombre d'atomes de part et d'autre. Et puis, on a d'abord un effet assez important, qui peut être assez important donc ici dans cet exemple, d'augmentation ici d'une différence de nombre d'atomes transitoire, puisque au moment où les deux températures ont atteint l'équilibre, eh bien, cette différence de nombre d'atomes relaxe ensuite vers zéro. Évidemment, à très longtemps, on s'attend à ce que les deux réservoirs finissent par avoir à la fois la même température et le même nombre d'atomes. Ça correspond à la situation d'équilibre. Alors, l'intérêt de cette mesure ici, et ce qui est relativement surprenant, au moins pour nous, c'est que on a un courant qui est positif. Autrement dit, on a un courant d'atomes qui va du potentiel chimique faible au potentiel chimique élevé. Alors, ce qui est une chose qui nous a un peu surpris, mais ce qui n'a pas du tout surpris les théoriciens qui travaillent sur ce sujet, puisque c'est exactement ce à quoi on s'attend pour l'effet thermoélectrique. Ça veut simplement dire qu'on a un effet thermoélectrique supplémentaire, intrinsèque, qui vient des propriétés du canal et qui produit un courant qui va du réservoir chaud vers le réservoir froid. Alors, il y a une interprétation extrêmement simple qu'on peut faire avec les mains, disons que c'est l'interprétation en quelque sorte de l'expérimentateur, consistant à dire qu'on a ici une constriction qui est simplement un élément qui permet l'échange de particules. On a un réservoir chaud et un réservoir froid. On va avoir un courant d'atomes de haute énergie qui va passer du réservoir chaud au réservoir froid. Un courant d'atomes de basse énergie qui va passer du réservoir froid au réservoir chaud. Donc dans cette configuration, évidemment, l'énergie passe, il y a un flux net d'énergie du réservoir chaud vers le réservoir froid, mais ces deux flux d'atomes n'ont aucune raison, a priori, de se compenser exactement. Et en particulier, lorsque le taux de transfert entre le réservoir chaud et le réservoir froid dépend de l'énergie, est une fonction croissante de l'énergie, et il y a une raison extrêmement simple pour laquelle on doit avoir une fonction croissante, simplement parce que les atomes qui ont une plus haute énergie, ils vont plus vite. Hein. Donc ça, c'est pareil, extrêmement simple. Et donc du coup, on s'attend à ce que typiquement, on ait un effet dans lequel on a plus de courant qui va vers du réservoir chaud vers le réservoir froid que le contraire, et ça donne un effet net, qui est un effet thermoélectrique intrinsèque au phénomène de transport qu'on cherche à mesurer. Et il se trouve que dans le cas de notre expérience, c'est cet effet qui domine sur l'effet thermodynamique de diminution du potentiel chimique. Et on peut modéliser ce phénomène, donc je ne rentre pas dans les détails, puisque vous avez d'une part le cours et d'autre part le séminaire de Charles qui suit, qui va vous expliquer comment on modélise en détail ces phénomènes. Et on obtient une équation d'évolution qui prédit donc l'évolution des paramètres mesurables, différence de nombre d'atomes et différence de température en fonction du temps, avec une constante de temps ici. La constante de temps, c'est la constante de temps correspondant au processus pour un atome de passer d'un réservoir à l'autre. C'est la constante de temps RC, dont vous avez entendu parler également plus tôt. Donc, alors, pour le cas du canal balistique avec réservoir idéaux, on a ici encore une fois un système pour lequel on peut utiliser d'une part la thermodynamique des gaz de Fermi et puis la formule de Landauer-Bütikofer pour obtenir une prédiction sans paramètre ajustable de l'évolution temporelle du nombre d'atomes. Et vous voyez ici que ce modèle prédit à la fois la constante de temps du système et puis également l'amplitude de l'effet qui est observé. Alors, on peut maintenant s'amuser à varier les différents paramètres. En particulier, on peut varier la fréquence de piégeage dans la constriction. Donc, on augmente la puissance du laser, ce qui augmente le confinement dans le canal. Et on observe ici la réponse thermoélectrique maximale. Donc, c'est simplement la différence de nombre d'atomes maximum, c'est-à-dire ce point normalisé par le chauffage qu'on a introduit dans le système. Et on voit ici une augmentation. Et ça correspond au fait que, évidemment, quand on augmente le confinement, donc quand on augmente la fréquence de piégeage, on augmente la résistance du canal, et on augmente également, ici, la réponse thermoélectrique du système, et on a ce double effet, augmentation de la résistance, c'est en quelque sorte le prix qu'on paye pour une augmentation du pouvoir thermoélectrique. Et encore une fois, cet effet est bien reproduit par la formule de Landauer-Bütikofer. Alors, on a une deuxième manière d'augmenter la résistance, qui est d'introduire du désordre et de passer d'un système balistique à un système diffusif. Et évidemment, si on suit cette intuition, on devrait également avoir une augmentation du pouvoir thermoélectrique. Donc, ici, vous avez la différence de nombre de particules en fonction du temps pour un désordre relativement faible. Je rappelle que l'énergie de Fermi est de l'ordre de 930 nanokelvin. Et puis, quand on augmente la force du désordre progressivement, on observe une augmentation relativement spectaculaire de l'effet thermoélectrique et puis également une augmentation des constantes de temps. Donc, l'augmentation des constantes de temps, c'est simplement l'augmentation de la résistance. Vous avez ici la constante de temps mesurée en fonction de la force du désordre. Et puis, une augmentation également de cette réponse thermoélectrique maximale qui est observée, qui est également ici une fonction croissante de la force du désordre. On a là encore ce compromis, en quelque sorte, augmentation du pouvoir thermoélectrique au prix d'une augmentation de la résistance. Alors maintenant, on a ces deux paramètres, d'une part le confinement, d'autre part le désordre, qui permettent chacun d'augmenter le pouvoir thermoélectrique. On peut les comparer en traçant cette fois la réponse thermoélectrique en fonction de la résistance. On a ici les points qui ont été obtenus pour des canaux balistiques, pardon. Et puis ici les points qui sont obtenus pour un système diffusif. Et ici, on a clairement, pour une résistance donnée, le système diffusif est toujours meilleur et significativement meilleur, à peu près un facteur 3, par rapport au cas balistique. Et la raison intuitive pour laquelle on a ce phénomène, c'est que le taux de transmission d'atomes a une dépendance plus grande dans l'énergie pour un système diffusif que pour un système balistique. Et il y a une raison qui est a priori relativement simple, c'est que si vous devez aller du réservoir gauche au réservoir de droite en utilisant une trajectoire balistique, le taux de transport, c'est simplement l'inverse du temps qu'il vous faut pour parcourir la distance. Donc, c'est quelque chose qui est proportionnel à la vitesse. Si vous devez aller, en revanche, de ce point-là à ce point-là en utilisant une marche aléatoire, eh bien, vous allez avoir un taux de transport qui dépend plus fortement de la vitesse. Ici, TOS, c'est le temps de diffusion, dans un modèle de type Drude classique. Et cette dépendance plus grande en vitesse pour le cas diffusif, ça donne une dépendance plus grande en énergie. Et cette dépendance plus grande en énergie, c'est elle qui est responsable de l'augmentation du pouvoir thermoélectrique. Alors, je voudrais maintenant revenir de dernier point donc, sur le pouvoir thermoélectrique, sur les histoires d'efficacité. Au fond, quand on prend des particules à un potentiel chimique faible et qu'on les fait passer dans un réservoir à potentiel chimique élevé, ce qu'on fait, c'est qu'on produit du travail. Et on peut utiliser toute la théorie thermodynamique de la thermoélectricité, donc que vous connaissez d'ailleurs certainement mieux que moi, puisque si vous suivez le cours d'Antoine Georges, et on peut utiliser donc, exactement les mêmes concepts et les mêmes idées qui sont utilisées pour les systèmes thermoélectriques standards, calculer le travail, qui est l'intégrale du courant de particules multiplié par la différence de potentiel chimique au cours de l'expérience, calculer de la même manière la chaleur irréversible qui est transmise du réservoir chaud vers le réservoir froid, qui est l'intégrale donc, du courant d'entropie multiplié par la différence de température, et puis obtenir une efficacité, donc c'est une efficacité relative à l'efficacité de Carnot. Donc si jamais on a un processus réversible, cette efficacité vaut 1. Et vous voyez ici, pour le système balistique, on a une efficacité qui est relativement faible et qui dépend pas de la fréquence de piégeage, mais pour le cas diffusif, on a une augmentation, au moins qualitative, assez claire de l'efficacité. Alors, le fait qu'on ait une augmentation d'efficacité pour des systèmes qui ont une résistance de plus en plus élevée, donc qui sont de plus en plus désordonnés, ça, c'est pas complètement une surprise, puisque un système réversible, donc infiniment lent, aurait une efficacité de 1, au maximum. Donc, le critère qu'on devrait utiliser plutôt pour mesurer, en quelque sorte, la force de l'effet thermoélectrique, ou disons l'intérêt technique ensuite de ce dispositif, c'est de mesurer sa puissance. Donc on mesure le travail divisé par la constante de temps. Et on voit ici en particulier que pour le cas diffusif, le maximum est relativement clairement atteint pour le régime qui est intermédiaire entre le régime balistique et le régime diffusif. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça. On peut produire une analyse un peu plus poussée qui permet d'extraire, de séparer la contribution des réservoirs de la contribution du canal lui-même. Pour ça, ça nécessite un modèle théorique un peu plus poussé. Donc, c'est Charles qui vous en parlera dans sa présentation. Je veux juste mentionner les expériences du groupe de Cheng Chin à Chicago, qui ont également mesuré le pouvoir thermoélectrique dans les atomes froids, dans un système extrêmement différent, de bosons à deux dimensions. En particulier ici avec un système qui est en interaction beaucoup plus forte et un dispositif expérimental, encore une fois, qui est très différent. Dans la dernière minute qui me reste de cette présentation, je voudrais vous présenter juste les quelques développements expérimentaux les plus récents sur notre... Oui, bien sûr. 2, 3 minutes, 5 minutes. Donc, ce sont les développements les plus récents sur notre manip, donc, qui est l'introduction d'un système de lithographie, où simplement, maintenant, on a un masque binaire, qui est un masque en chrome, qui est maintenant exactement le même que celui qui est utilisé pour imprimer des structures sur des, et fabriquer des composants mésoscopiques. Et simplement, ce masque est imagé, en utilisant le microscope ici à grande ouverture numérique, sur le nuage d'atomes froids, de sorte que, par exemple, dans cet exemple ici, on a deux régions maintenant dont sont exclus les atomes, et puis un mince filament ici, qui est en gros, qui produit simplement un fil quantique. Donc maintenant, on a confiné dans deux directions, on a un système qui est quasiment unidimensionnel, et si on mesure la conductance dans ce type de, avec ce type de dispositif, eh bien, on s'attend à ce que, à observer des plateaux qui sont simplement l'application de la formule de Landauer au cas des atomes froids. Donc maintenant, la conductance n'est pas E carré sur H, mais 1 sur H, simplement parce qu'on a des particules qui ne sont pas chargées. Et puis vous avez ici, donc ça c'est des expériences qui ont simplement quelques semaines, où vous voyez de façon relativement claire des plateaux de conductance qui sont observés, au moins un ou deux plateaux. Alors, bon, c'est des résultats en cours, donc je ne suis pas forcément capable d'expliquer exactement toutes les structures qu'on observe sur ces manips. Ici, ce qu'on change, c'est simplement le potentiel chimique dans le canal. Mais vous voyez qu'ici, maintenant, enfin, on est capable, au fond, de faire des composants mésoscopiques qui sont dans le régime quantique, c'est-à-dire dans le régime où on a un seul quanta de conduction entre les deux réservoirs. Et on est capable de mesurer ici un quanta de conductance avec un signal sur bruit raisonnable. Ça reste encore, donc c'est encore des données relativement préliminaires. Donc je ne vais pas en dire plus. Simplement, donc, on a ce dispositif expérimental qui permet de mesurer les propriétés de transport des systèmes d'atomes froids. Et puis on peut utiliser, on a une grande flexibilité donc, dans les atomes froids pour observer des systèmes qui sont en interaction ou pas, des systèmes qui sont éventuellement désordonnés avec un contrôle sur le désordre, et puis des systèmes dont on peut maintenant contrôler la dimensionnalité. Et on peut mesurer un grand nombre de coefficients de transport, en particulier les pouvoirs thermoélectriques. Donc j'insiste sur le fait que, ici, c'est un dispositif qui est complètement général, donc on peut, en principe, utiliser n'importe quelle structure, ici, et mesurer ses propriétés de transport. Donc ça fonctionne, quelle que soit la force des interactions. Donc, voilà les références de nos travaux. Simplement, maintenant qu'on est équipé de ce dispositif, on peut maintenant essayer de faire véritablement une sorte de simulation atomes froids de composants mésoscopiques, et puis essayer d'aller maintenant dans des régimes de paramètres qui ne sont pas accessibles pour des expériences de physique de la matière condensée. Alors c'était déjà le cas en fait pour l'expérience d'effet thermoélectrique, puisqu'on a un système ici qui est d'une part à haute température, donc 20% de la température de Fermi, mais dans lequel il n'y a évidemment pas de phonon. Hein. Donc ça, c'est déjà une situation relativement inhabituelle, et c'est une situation d'ailleurs qui permet de faire des calculs et de les comparer quantitativement avec la manip. Il me reste à remercier les gens qui ont travaillé sur cette manip, donc Sébastien Kriener, Jakob Meinecke et David Stadler, Tim Anneslinger qui est notre patron, et puis trois nouveaux étudiants qui nous ont rejoints, Corinna Collat, Charles Grenier que vous entendrez tout à l'heure, et puis Antoine Georges pour leur collaboration sur l'effet thermoélectrique, et puis enfin un grand nombre de discussions qu'on a eues avec beaucoup de collègues, et on découvre un peu ce monde de la physique mésoscopique depuis quelques années, et donc on a bénéficié énormément de discussions qu'on a eues avec différents experts dans le sujet. Voilà, il me reste aussi à vous remercier de votre attention.